7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, parler en public quand on est une femme. L'émotivité a longtemps été un boulet, une pudeur qui empêchait les femmes de faire passer leurs idées, leurs convictions, un appel à l'action aussi parfois. Aujourd'hui, les femmes sont-elles des oratrices comme les autres? On va parler du souffle, du timbre de voix, de la posture du corps, depuis Michelle Obama et son incroyable charisme. Est-ce que finalement tout a changé pour les femmes? Les méthodes de développement personnel pour améliorer la confiance en soi, l'affirmation de sa différence, quels sont les nouveaux outils de l'éloquence au féminin? Des spécialistes de la prise de parole répondent à toutes vos questions. On va avoir vraiment trois visions de la prise de parole en public ou sur les réseaux sociaux avec nos invités. Bonjour Anaïs Coq.
Bonjour.
Alors vous êtes française, consultante et coach en expression communication pour votre agence Equency. Et on peut dire que vous travaillez pas mal avec les femmes. Et d'ailleurs en ce moment vous êtes sur le pont des élections municipales en France.
Oui, tout à fait. Avec, il se trouve cette année, trois femmes que j'accompagne, qui sont candidates pour les mairies de leur ville et que j'accompagne.
Elles sont mères sortantes?
Elles ne sont pas mères sortantes, ce sont des nouvelles candidates, donc nouvelles méthodes, nouvelles attentes, nouveaux objectifs et nouvelles communications.
Et grosses angoisses, non, j'imagine?
Et très très grosses angoisses. Là, on est sur la dernière ligne droite, je vous dis pas à quel point tout le monde est fatigué et c'est dur, ça fait 6-7 mois de campagne pour certaines, c'est très 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 long, elles
et
sont
alors,
très fatiguées.
Bien sûr, hein, vous allez nous dire s'il y a une spécificité de la prise de parole pour les femmes, d'autant plus que les femmes mères sont largement minoritaires, on a moins de 17% de femmes à la tête de villes en France, donc forcément c'est pas une position si confortable que cela. Également avec nous Annabelle Roberts. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Vous êtes canadienne, grandie dans la province de l'Alberta. Vous avez fondé en France une agence de prise de parole en public qui s'appelle Present Perfect. Et vous avez publié aussi le récit de vos échecs qui vous ont conduit au succès, la théorie de la veste, aux éditions Flammarion. Pour apprendre à bien parler en public, il faut d'abord connaître l'échec.
Non, pas forcément. En fait, pour bien prendre la parole au public, déjà, il faut faire deux choses. Un, oser. Donc la femme, quand il est temps de présenter le projet, etc., on se rend compte qu'elle a deux fois moins de chances d'être celle qui va porter volontaire de présenter le projet. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aime pas prendre la parole. Et figurez-vous que la seule manière d'être bon en prise de parole, c'est de prendre la parole.
Ouais, s'entraîner, évidemment, on va en parler. On est également en ligne au Gabon avec Charlie Tchatch. Bonjour.
Bonjour.
Charlie Tchatch, alias Charlie Mouniengou, vous êtes animateur à la langue bien pendue. Vous avez été maître de cérémonie de la Cannes ou encore au jeu de la francophonie. Vous avez organisé un concours d'art oratoire pour les femmes au Gabon. Et surtout, vous aimeriez en faire un concours panafricain. Ça, c'est pas encore gagné. Et bien évidemment, vous nous direz hein, les problèmes que rencontrent les femmes qui veulent s'exprimer en public et les conseils que vous leur donnez. Et quant à vous, les voisines, alors autant vous dire que là, c'est de la discrimination positive. Vous êtes prioritaire pour poser vos questions, témoigner de vos expériences pour en faire profiter aussi d'autres sœurs. N'attendez pas la fin de l'émission pour prendre enfin la parole. Allez, appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le WhatsApp et vous pouvez nous laisser des messages. Et puis en fin d'émission, comme chaque semaine, l'Afrique qui gagne, portrait d'un créateur camerounais aujourd'hui qui est arrivé jusqu'à la Fashion Week de New York, Charline Zogang, 29 ans. Il a raconté son parcours à Charlie Dupio. Aujourd'hui, c'est vraiment l'émission des Charlie, un prénom mixte et ça nous plaît.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Annabelle Roberts, Anaïs Coq et Charlie Tchatch, je vous soumets un premier message d'une auditrice qui nous a posté de Dakar. Sarah, 26 ans, elle dit qu'elle prend régulièrement la parole parce qu'elle travaille dans la presse en ligne, mais elle est aussi syndicaliste. J'ai du mal à gérer le stress et le fait de parler devant beaucoup de gens, surtout au début d'une manifestation ou au début de ma prise de parole. Si je sens que l'Assemblée ne me soutient pas, c'est très compliqué pour moi, sinon ça va. Alors, les deux questions. Comment faire pour gérer le stress avant de prendre la parole? Parce que elle nous dit qu'elle a mal au ventre, mal à la tête avant de parler. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre déjà?
Il y a deux choses.
Anaïs
Koch. Déjà, bien respirer avant. Ça, c'est de la gestion du stress technique, c'est-à-dire faire de la respiration profonde pour réoxygéner, en fait, tout simplement le sang et calmer les battements de cœur. Ouais.
Alors, faut bien quand même repréciser que les exercices de respiration, s'ils ne sont pas pratiqués très régulièrement, ils servent à rien le jour J. Hein.
Ils servent quand même à ralentir un peu le battement du cœur, quand même. Après, le problème, c'est que comme ça opère un changement sur le corps, parfois, ça restresse les gens parce qu'ils ne sont pas habitués, en fait, à ce ressenti-là. Donc, c'est mieux si on s'habitue à le faire et si on fait de la relaxation régulièrement. C'est quand même bien. La deuxième chose, c'est, je pense, la bienveillance vis-à-vis du public, parce que, comme le dit cette auditrice, c'est-à-dire, j'ai l'impression que les gens ne vont pas être bienveillants avec moi. Donc, c'est arrêter de projeter sur l'auditoire des choses qu'on imagine. Parce que ce que je dis souvent à mes clientes, c'est vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête des gens qui sont en face, vous ne pouvez pas le savoir, vous n'avez pas la main dans le cerveau des gens. Donc, la seule chose que vous maîtrisez et que vous connaissez, c'est ce que vous ressentez-vous. Donc, un peu de bienveillance, plutôt que d'imaginer toujours que le public nous veut du mal, imaginez que, voilà, c'est des gens qui sont prêts à nous écouter. Et donc, voilà, je dirais que ça aide beaucoup à gérer son stress aussi.
D'ailleurs, elle dit en deuxième question, comment affronter un public qui ne partage pas mes idées? Si les filles ne prennent pas la parole, c'est qu'elles acceptent d'être derrière. Il y a aussi la pression sociale qui n'aide pas à la prise de parole. Annabelle Roberts.
Là, je vais faire appel à Aristote, qui est quand même, selon moi, le meilleur consultant en prise de parole qui existe, même 2000 ans plus tard. Et lui, il nous apprend à travers de son œuvre sur la rhétorique que face à une résistance, il faut laisser les faits font le travail pour vous. Donc, quand un public n'est pas d'accord avec vous et vous exposez vos opinions et vos émotions et votre pathos devant ce public, c'est pas ça qui va les aider à convaincre. Il faut laisser les faits faire leur travail, reposer sur la logique, sur la raison, sur le data, pour arriver à convaincre le public.
Charlie Tchatch, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Mais moi, je suis entièrement d'accord. En fait, généralement, ce n'est pas, on n'a pas besoin de convaincre en donnant simplement des mots. Ça veut dire pour convaincre un public, ce n'est pas juste aligner des phrases. Non, il faut parler des faits, en fait. Ce sont les actions qui vont convaincre véritablement le public. Ça veut dire que pour amener un public sur soi en fonction d'une thématique bien donnée, ben il faut dire, écoutez, moi j'ai vu telle femme qui a réussi dans tel domaine, elle est partie de A, et puis elle est arrivée à Z, ainsi de suite. Donc ce sont les actions qui vont évidemment convaincre. Moi je suis entièrement d'accord avec le propos du coach. Voilà.
Oui, en politique, il y a quand même pas que les faits hein, qui comptent. Anaïs Koch.
Non, parce que les faits, en plus, c'est quand même une notion compliquée. Enfin, bien sûr, moi, je suis d'accord que c'est important de faire appel à une raison et à une logique qui va avec la rhétorique, mais il y a quand même, à un moment, il y a forcément de l'émotion qui se met dans tout ça. Elle est nécessaire et elle est vraiment inhérente à la communication. Et puis, la politique, c'est un rapport très émotionnel. Hein. Les gens ont toujours l'impression qu'ils jugent les élus ou les politiques à l'aune d'une réflexion très objective, alors qu'on est pétri d'émotions dans notre rapport aux politiques. Donc c'est souvent assez marrant et on a besoin de ça. Et puis les élus, eux, transmettent ça. C'est souvent ce que je dis, parce que les femmes élues, justement, mais j'y reviendrai, elles veulent toujours prendre la parole en ayant une maîtrise totale de tout leur dossier. Je ne prendrai pas la parole tant que je ne maîtriserai pas l'intégralité du dossier. Et sauf que je leur dis, mais vous n'êtes pas des experts, vous êtes des politiques. Donc vous prenez la parole, donc c'est une prise de parole de politique générale. Donc on parle de choses en général. Les politiques n'ont pas à être des experts, hein. Ça je le dis souvent, ce n'est pas leur rôle. Donc il y a une part d'émotion là-dedans.
Ouais, sauf que évidemment, quand un politique fait une boulette, dit une exactitude, est-ce qu'une femme finalement ne se sent pas davantage blessée par rapport à un homme complexé?
Si, elle se sent davantage complexée, c'est ça une des différences pour moi majeures entre ces deux communications, c'est que la femme a beaucoup de mal. Les femmes, alors c'est les, hein, évidemment, il y a des exceptions, mais les femmes s'appuient énormément sur leurs connaissances. Donc, pour avoir le droit de parler, pour être légitime à parler, je dois tout savoir de mon sujet. Un homme s'autorisera un peu plus à pouvoir, voilà, partir un peu dans tous les sens sur un sujet, à prendre quelques libertés et à improviser. Et une femme fait très peu confiance souvent à son savoir-être, c'est-à-dire que sa valeur à elle ajoutée en soi ne serait pas une valeur, alors qu'un homme a tendance à considérer que c'est davantage une valeur. Ce qui fait que souvent, il peut y avoir une forme d'humiliation ou de blessure plus forte chez une femme si jamais elle fait une erreur, s'il y a une inexactitude dans son discours. Alors qu'évidemment, il n'y a pas de drame, et que je suis tout à fait d'accord avec la question de l'échec, parce que c'est ce que je dis tout le temps, c'est le droit à l'erreur. Et ça, je pense que les femmes vont apporter quelque chose de nouveau, pour le coup, à l'avenir dans la communication, par ce biais du droit à l'erreur, justement.
Alors, vous nous appelez, j'espère qu'on a répondu à peu près correctement aux questions de Sarah, qui nous écrivait de Dakar. Vous nous appelez maintenant de vive voix au 33 1 84 22 71 71. Parlez en public quand on est une femme.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
All of you are very much the fruits of their vision. Their legacy is very much your legacy and your inheritance. And don't let anybody tell you differently. You are the living, breathing proof that the American dream endures in our time. It's you. So I want you all to go out there, be great, build great lives for yourself, enjoy the liberties that you have in this great country, pursue your own version of happiness, and please, please always, always do your part to help others do the same. I love you all. I am so proud of you. Thank you for allowing me to share this final commencement with you. I have so much faith in who you will be. Just keep working hard and keep the faith.
Bon, c'est Michelle Obama, évidemment, vous l'avez reconnu. On est en 2016 pour une remise de diplôme au City College de New York, donc elle est encore First Lady, donc son discours est assez convenu, hein. Elle dit aux étudiants qu'ils sont l'incarnation du rêve américain, qu'ils poursuivent leur propre vision du bonheur, mais qu'ils doivent aussi faire leur part pour aider les autres à se réaliser. Je vous aime tous. Comment expliquer que Michelle Obama, elle a quelque chose de spécial quand elle parle?
Elle a quelque chose de spécial quand elle parle, comme les plus grands orateurs de l'histoire ont quelque chose de spécial. Et en fait, c'est une grande communicante aux États-Unis qui s'appelle Nancy Duarte, qui a un cabinet de prise de parole, qui a en fait trouvé qu'est-ce que c'est cette pâte spéciale, qu'est-ce que c'est la recette d'une bonne prise de parole. Et en fait, quand on regarde les discours de Simone Veil, de Charles de Gaulle, de Michelle Obama, de Barack Obama, on se rend compte tous qu'ils font quelque chose de très malin, qu'on n'est pas enseigné ça à la communication, le contraire. En fait, c'est qu'ils appuient là où ça fait mal avant de nous soulever vers ce qui pourrait être le cas si vous adhérez à mon idée, si vous adoptez cette idée. Et ça crée un contraste et une espèce de tension et de récompense qu'on retrouve à travers. Imaginez le discours de Charles de Gaulle si c'était « Messieurs, dames, Paris est libéré ». C'est pas aussi puissant que si on dit « Paris brisé », « Paris humilié », »,« Paris martelisé ». Paris libéré.
Mais néanmoins, ça c'était quand même avant l'époque des coachs, où on travaillait beaucoup moins le corps, la voix qu'aujourd'hui. Sur le fond, finalement, une Michelle Obama, elle dit des choses relativement banales. Alors qu'est-ce qui fait que son engagement, sa sincérité personnelle galvanise les foules?
C'est parce que le fond, mais c'est la forme du fond qui vraiment donne une richesse à ce qu'elle dit. On n'écrit pas pour l'oral comme on écrit pour la page. Et dans le système scolaire francophone, nous puissions très très bien apprendre à écrire pour la page. Thèse, antithèse, synthèse. Mais quand on applique ça à la parole, c'est chiant, ouais. En fait. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Alors, je suis désolée d'être grossière, mais c'est boring, c'est ennuyeux. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que déjà, il faut accrocher votre public au début. Il faut les choper par la curiosité. Et une grande communicante qui a écrit un bouquin, qui a vendu des milliers de copies, qui s'appelle Talk Like TED, donc parler comme des TED Talkers, qui nous motivent tellement, il s'appelle Carmine Gallo, il nous a appris qu'il faut choper votre public par la curiosité. La curiosité.
En même temps, le modèle des TEDx, c'est un peu toujours le même, hein, justement.
On c'est un peu toujours le même.
Une petite histoire, une petite
c'est
anecdote.
C'est ça,
mais,
c'est
très standardisé.
C'est très technique. Standardisé.
Ouais, c'est
et
très
on,
technique.
Mais c'est, l'événement se prête à ça. Je veux dire que quand on y va à un concours d'éloquence, on retrouve des mêmes patterns dans la communication. C'est la même chose.
Vous-même, Annabelle Roberts, puisque vous avez grandi au Canada anglophone, donc vraiment dans la culture nord-américaine, vous avez été entraînée à la prise de parole en public.
Mais entièrement. Entièrement, c'est très très important.
Dès le lycée?
Mais non, dès la maternelle. J'ai dit en kindergarten, qui est un peu la grande section canadienne, on fait ce qu'on appelle show and tell. Ce qui va dire que soit j'amène quelque chose que je vais montrer à mes camarades de classe,
donc c'est
soit
pas
je
juste
raconte
prendre la parole
chose.
De sa place en levant la main. C'est-à-dire qu'on se lève et on parle devant ses camarades.
C'est un rendez-vous à la fin de l'année scolaire. Tous les élèves ont parler devant tout le monde 3, 4, 5 fois dans un espace de concours d'éloquence adapté maternelle.
Donc filles, garçons, la question ne se pose même pas à la maternelle.
Mais pas du tout.
Charlie Tchad, je voulais prendre la parole là-dessus justement sur... on vient de le perdre. Mais je me posais la question donc Anaïs Coq finalement... Est-ce qu'aujourd'hui, vous-même qui entraînez des politiques, notamment des femmes dans la campagne municipale, est-ce que les anglo-saxons ont encore vraiment une longueur d'avance quand les femmes prennent la parole en public ?
Oh ben oui, le temps qu'on rattrape le retard, de toute façon, ils vont garder une longueur d'avance longtemps sur nous en France, parce qu'on a tellement longtemps confondu le fond, la forme, en faisant comme si les deux pouvaient se séparer et n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, alors qu'évidemment c'est intimement lié. Donc on va mettre un petit peu de temps à récupérer ce retard-là, mais ça va. Et encore une fois, je pense que pour le coup, ça peut passer par les femmes justement, qu'il y a quelque chose qui peut s'inventer, qui sera pas anglo-saxon, qui sera français.
Ouais. Charlie Tchatch, on vous a récupéré, vous êtes bien au téléphone avec nous à Libreville.
Oui.
Ouais, vous avez entendu l'extrait donc de Michelle Obama. Michelle Obama, c'est vraiment quelqu'un qui incarne quelque chose de très particulier aussi sur le continent africain dans la façon de prendre la parole, de s'imposer en tant que femme.
Oui, je suis entièrement d'accord. Mais en fait, pourquoi ? Parce que généralement, la femme africaine, dans la tradition africaine, on a toujours dit que la parole de la femme ne compte pas, ok? Donc la femme, elle était juste là pour être à la cuisine, pour s'occuper des enfants, ainsi de suite. Donc, quand elle avait quelque chose à dire, elle devait le donner à son homme, et c'est à l'homme d'exposer le message sur la place publique. Et donc, on se rend compte qu'avec Michelle Obama, elle donne le ton à toutes les femmes pour dire, écoutez, ne restez plus cachées, ne restez plus on the back, ok? Maintenant, exposez-vous, montez sur la place publique, et dites ce que vous avez à dire. Et je suis entièrement d'accord quand on dit que l'histoire de la prise de parole ou dans les années à venir, mais c'est la femme qui va écrire l'histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la femme a un potentiel qu'elle ignore, en fait. Elle a juste peur, elle a juste honte, mais moi, je pense que ce mythe-là, évidemment, ça tombe avec des femmes comme Michelle Obama. Mais je suis entièrement d'accord aussi à cause du fait, en fait, ce n'est pas tout que de parler. Il y a aussi un charisme derrière. Il y a un nom, c'est quand même la femme du président américain, donc Barack Obama. Mmh. Donc c'est aussi ça, ça veut dire que parler en public, comment convaincre le public, ce n'est pas simplement que de maîtriser le sujet, ce n'est pas simplement que de bien parler, il y a aussi ce gros travail qu'il faut faire sur soi, parce que ça joue également beaucoup. Avoir une femme comme Michelle Obama prendre la parole, c'est clair que personne ne voudrait rater cette conférence, personne au monde ne voudrait rater de voir Michelle Obama parler. Donc moi je pense qu'il y a tout ça qui fait que cette femme est spéciale et elle montre le ton, elle montre la voix à toutes ces femmes sur le continent africain, voilà.
Anaïs Coq, est-ce que vous avez remarqué dans votre pratique, quand vous entraînez des femmes à la prise de parole, notamment en politique, qu'il y a quand même plus d'émotivité chez les femmes dans cette façon d'avaler sa salive à un moment en plein milieu d'une phrase, par exemple, ce qu'on retrouve moins, ce qu'on voit, c'est très flagrant à l'image par rapport à des hommes, non ?
Oui, ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on voit moins chez les hommes, c'est pas pour ça que ça leur arrive pas. Le niveau d'émotivité face à la prise de parole, pour moi, il est quasiment équivalent et bien réparti entre les hommes et les femmes. Par contre, là où parfois nous on paye quelque chose parce que ça se voit davantage, c'est sur la question de la tonalité de la voix. Donc ça, c'est une chose que je travaille énormément, moi, les questions de placement de la voix, parce qu'en effet, souvent les femmes ont des tessitures et des tonalités un petit peu plus aiguës, et donc dès que l'émotion monte, donc ça veut dire qu'on a la voix dans la gorge, automatiquement ça devient plus aigu, plus tendu. Ça vibre avec un peu plus d'émotion, donc on entend l'émotion dans la voix beaucoup plus chez les femmes qu'on ne l'entend chez les hommes. C'est pour ça qu'elle n'existe pas. C'est juste qu'on l'entend davantage chez les femmes. Donc ça, c'est quand même extrêmement important à travailler, parce que le problème
Donc il se travaille, ça se travaille avec le souffle, par exemple, comme pour les chanteurs.
Ça se travaille avec les muscles surtout, tous les muscles qu'on a dans le ventre, hein, parce qu'il va pas falloir les oublier ceux-là. Et puis comme les femmes, souvent également, sont beaucoup beaucoup dans leur tête, très souvent elles réfléchissent énormément à plein de choses, elles ont toujours des tas de choses dans la tête. Du coup, pareil, c'est une communication très en haut, très verticale. Et or, il faut que ça soit horizontal. Donc il y a tout un travail pour faire redescendre le souffle, la voix, et puis même l'énergie de communication dans le ventre, au centre du corps, se réapproprier son corps en même temps. Et donc, quand on se réapproprie son corps, on habite tout l'espace. Donc, ça veut dire que d'un coup, je prends de l'ampleur. Et ça, les femmes, souvent, c'est un peu compliqué.
Vous travaillez plus avec le corps aussi pour les femmes, Annabelle Roberts ?
Nous, on travaille le corps et on se rend compte qu'en travaillant le corps, on travaille aussi la voix. Donc, en fait, tout ce qu'elle explique, Anaïs, c'est symptômes de stress. Le corps est en train de manifester son stress, en fait. Et le but, c'est de faire descendre ce stress le plus rapidement possible. Et ce qu'on fait, c'est que, en fait, il faut annuler des signaux que le cerveau est en train de recevoir en disant, nous sommes en danger, nous sommes stressés, tout le monde est en train de me juger. Et on fait ça en travaillant le corps. Donc, on pense que le cerveau contrôle le corps, mais parfois, le corps peut contrôler le cerveau. Et si justement, on travaille cet espace qui doit être occupé pour la femme, on arrive à annuler ces signaux. En fait, nous ne sommes pas en danger. Parce que si vous faites petit, vous mettez vos mains devant vous, on appelle ça le posture nudiste, ok? vous renforcez le penser que je suis en danger, je dois me cacher, je dois me rendre petit. Donc, rendez-vous grand. Nous, ce qu'on fait, c'est on conseille la coco magique. OK? Donc imaginez que vous tenez un coco devant votre nombril, on peut pas le voir parce qu'il est magique. Noix de coco, genre Guadeloupe, ouais. OK? Et vous le tenez devant votre nombril et vous devrez l'ouvrir devant tout le monde. OK? Donc les 15 premières fois on le fait, ça fait un petit peu bienvenue à la messe, mes frères et sœurs, OK? Mais c'est quand même la geste fédérateur, c'est quand même le geste universel de vous pouvez me faire confiance. Je suis là avec vous, je vous accueille, je vous écoute.
Il y a une question d'énergie là-dedans. Enfin, moi, ça, je trouve que c'est important sur la question des gestes, parce que bon, il y a évidemment des gestes qui sont des gestes qui peuvent universellement raconter des choses d'ouverture. Mais moi, ce que je dis souvent, parce que souvent mes clientes me disent, alors faut que je fasse quel geste pour montrer que je... Non, non. C'est dans la tête, c'est l'état d'esprit, c'est ce qu'on est vraiment, c'est très fort. C'est vous êtes là, à l'instant présent, et vous êtes dans une énergie où vous avez envie de délivrer votre message.
Et vous faites des gestes en disant ça. Oui. Et c'est la tête qui mène les gestes, on est bien d'accord.
Ben oui, c'est l'énergie, c'est l'état d'esprit, c'est l'envie d'être là. Et c'est ce que fait Michelle Obama. C'est que Michelle Obama, elle adore ça. Elle aime ça. C'est ce qui fait que ça marche aussi. C'est ça aussi l'apanage des grands orateurs, c'est que c'est des gens qui aiment faire passer des messages et qui aiment les gens qui sont en face d'eux et qui ne projettent pas sur eux des choses négatives.
Et plus on s'entraîne, plus on, meilleur on est à l'oral, hein. Oui. Et évidemment, l'appétit vient en mangeant.
Ah bah mais oui. il faut pas attendre des occasions de parler en public pour parler en public. Donc en fait, si vous voulez devenir bon là-dedans. Moi, je suis d'accord avec vous, Anaïs. Nous, ce qu'on dit, c'est que la prise de parole doit être comme la première encart. OK? Il faut absolument que vous soyez vous-même. Mais on va quand même employer certains outils un peu factices, un soutif push-up, par exemple, pour conclure dans ce rendez-vous.
D'accord. Bon, alors ça, c'était la petite ruse pour les dames. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Les voisines, vous pouvez poser toutes vos questions, témoigner aussi de vos expériences, parfois difficiles, parfois au contraire heureuses, pour la prise de parole en public.
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people. For hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
Voilà, ça c'est un bon exemple de voix qui justement est pas très bien placée, Greta Thunberg, la voix tremblante devant les Nations Unies à New York en septembre 2019 avec un discours bon toujours très agressif pour dénoncer l'inaction des politiques face au réchauffement climatique. Je devrais être à l'école de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pas la peine d'ailleurs de tout traduire. Hein. Vous avez ce qui compte aussi, c'est la voix tremblante. Hein. Vous avez volé mes rêves, mon enfance avec vos mots vides. Des gens souffrent, meurent. Nous sommes au début d'une extinction de masse et tout ce que vous savez faire, dit-elle en s'adressant aux Nations Unies, c'est parler d'argent et de croissance économique.
Alors moi je trouve, hormis une grande différence d'âge, qu'il n'y a pas une si grande différence avec le discours de Michelle Obama. Je parle en termes de forme.
Ouais, il y a plusieurs années de différence.
Il y a plusieurs années de différence, donc il y a moins de maîtrise. Mais quand on écoute le discours de Michelle Obama qu'on a entendu tout à l'heure, il y a énormément d'émotions. Elle fait vibrer sa voix. C'est très fort. On a l'impression qu'elle pourrait presque se mettre à pleurer. Elle dit I love you. Enfin, c'est franchement pour moi c'est quasiment la même chose, sauf que Greta Thunberg elle est très jeune. C'est une enfant que je pense qu'elle est un peu accompagnée, mais finalement pas tant que ça, et que du coup elle est complètement emportée par ses émotions et que je suis même pas sûre qu'elle soit dans une capacité à ce moment-là d'avoir en tête qu'il faut qu'elle fasse passer ce message-là au plus grand nombre et que pour ça faut qu'elle gomme un tout petit peu l'émotion pour que ça soit recevable. Quand on l'écoute, même encore, j'ai entendu plein de fois ce discours, même encore là en l'écoutant, moi ça me met les poils comme on dit, c'est-à-dire
en même temps la dramatisation, je sais pas ce que vous en pensez Charlie Tchatch à Libreville, mais c'est un style en art oratoire, mais ça peut être dangereux aussi.
Mais oui, mais il faut savoir à quel moment l'utiliser. Et pour savoir à quel moment l'utiliser, il faut déjà identifier au mieux son public. Ça veut dire qu'en fonction du public qu'on a en face, on sort la carte qu'il faut. Ça veut dire que si on doit faire sortir de l'humour, parce qu'on recherche quelque chose, il y a une finalité. Et pour la petite, en fait, moi je suis entièrement d'accord, le fait qu'elle se mette un peu à faire comme si elle pleurait, en fait, je pense évidemment le fait de dramatiser tout ça, c'est bien parce que ça interpelle en fait les dirigeants qui sont en face. Donc oui, c'est bien, mais il faut savoir comment l'utiliser. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les techniques qu'on va utiliser devant tous les publics. En fonction du public, il faut adapter la stratégie qu'il faut, il faut adapter le message qu'il faut. Et on parlait de Michel Obama pour que termine. Je me souviens une fois, le couple est allé en Israël, et là, il y a un geste que Michelle Obama a eu à faire, elle a porté le voile. Et même en Norvège également, si j'ai souvenir, je pense que la première ministre de Norvège, je pense, avait porté le voile alors qu'elle était allée voir les musulmans. Et pourtant, elle n'est pas musulmane. Donc tout ça aussi, ça rentre dans des stratégies de prise de parole en public. Comment convaincre sans même sortir un mot, je pense que ça c'est faisable. Donc c'est parfois bien de dramatiser, mais il faut savoir comment l'utiliser en fait.
Ouais, Greta Thunberg, vous l'appelez la petite. Hein. Bah vous avez raison, remarquez. Ceci dit, je sais pas si elle apprécierait. Restez avec nous. Restez avec nous, Charlie Tchatch.
Vous êtes championne, c'est championne. Ouais. C'est championne. C'est bien de voir les enfants. C'est bien de voir des enfants qui s'intéressent à de telles thématiques.
Oui, bien sûr, on a bien compris que c'était pas du tout pour minimiser sa prise de parole. De toute façon, ça sera difficile de la complexer, hein, je pense. Allez, vous nous appelez, parlez en public quand on est une femme. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. Dépêchez-vous parce que on est déjà à une bonne moitié de l'émission. On donne la parole à Esther qui est à Brazzaville, au Congo Brazza. Bonjour Esther.
Allô, bonjour.
Esther, vous avez 21 ans.
Oui.
Et vous êtes étudiante en communication et marketing. Et vous avez un problème à nous poser pour la prise de parole?
Exactement.
On vous écoute, Esther.
Alors, comme vous l'avez dit, je suis étudiante en communication. Je suis également manager associée dans une start-up qui s'appelle Wadi. Alors, le samedi dernier, on a organisé une masterclass sous le thème « Pourquoi et comment optimiser son carnet d'adresses et en faire un atout ?» Mon problème à moi, c'est que lorsque je prends la parole, j'ai tendance à regarder soit le mur, soit le plafond, mais je ne fixe pas les gens. Et je pense que c'est ma façon de gérer le stress. Et j'aimerais avoir des conseils sur ce point-là.
Mmh. Alors, Annabelle Roberts vous répond peut-être déjà.
Bah moi j'ai exactement le problème. Moi j'ai exactement le même problème, figurez-vous. Donc je sais pas comment vous avez grandi, mais quand j'enquête un petit peu autour de moi et on a réalisé une grande étude sur le trac en 2016, on voit que ce fuite de regard que vous décrivez, souvent ça vient de ceux qui ont grandi dans la religion, très croyants. Moi le nombre de fois tout petit que j'ai entendu baisse ton regard, comment oses-tu me regarder droit dans les yeux, etc. Donc peut-être ça vient de là. Mais moi, j'ai un conseil à vous donner. C'est que vous allez répéter votre pitch, que ça soit pour votre start-up, si vous allez lever de l'argent bientôt, si vous allez parler à de la presse, un petit peu comme vous faites là. Je vous félicite, c'est bien. Ceci dit, il n'y a pas de souci de regard à la radio. Mais de vous enregistrer dans votre téléphone et de regarder droit dans le caméra. OK? Donc, de regarder droit dans le caméra. Pourquoi? Dans un premier temps, parce qu'on va regarder ce film derrière. Okay. Ça nous permet de faire presque une répétition passive, en fait. Vous pouvez regarder ce film 15 fois et vous allez vous rendre compte que vous le connaissez, en fait. Okay. Donc, l'autre jour, je me suis rendu compte que je connais par cœur La Reine des Neiges. Pourquoi ? Parce que ça tournait derrière avec mes enfants en background 15 000 fois. Okay. Deuxième, parce que vous allez voir comment ça rentre très, très bien quand vous regardez droit dans les yeux, quand vous regardez votre public, et ça sera dur de passer à côté de ce résultat. Et troisièmement, parce que des choses qu'on peut voir, bah on est, ils sont décomplexifiés. Je ne sais pas si c'est un mot en français. Ok, parfois je m'étonne. Donc, vous allez voir que...
se décomplexer, on va dire. Hein.
Oui, ouais, très bien.
Plus simple.
Très bien, voilà. Faisons simple.
Il n'y a pas de problème, Annabelle.
Ok, donc enregistrez-vous déjà, ok, et montrez ce film aux gens. Regardez, au début, vous allez dire « Ah, j'aime pas le son de ma voix, ah, j'ai des kilos à perdre, peu importe votre insécurité à vous. » Mais vous allez vous rendre compte que, en fait, ça donne tellement bien quand je regarde dans le caméra, ça nous entraîne à regarder dans les yeux, ok. Ensuite, vous allez jouer à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette » avec votre colocatrice, avec vos copines. Vous connaissez ce jeu-là?
Oui,
oui, ok. Sauf que ce n'est pas si ce qui rira en premier recevra une tapette, c'est ce qui a une fuite de regard recevra une tapette.
D'accord.
Ok, pas trop fort. D'accord. On veut pas d'accident de travail. Okay. mais ces deux choses-là de quelqu'un qui a exactement le même problème, donc je vous comprends, va vous aider à entre guillemets, soigner ce fuite de regard.
C'est vrai qu'on est, on peut être conditionné culturellement très tôt, hein, dès l'enfance aussi, par rapport à la prise de parole, vous le disiez. Ça peut être pour des raisons culturelles, religieuses, même si à l'école, il va y avoir d'ailleurs un autre type de culture, puisque vous disiez qu'à la maternelle, Annabelle Roberts, vous avez été habituée à prendre la parole. Mais du coup, il peut y avoir un peu deux types de cultures qui se confrontent, et ça simplifie pas les choses aussi dans sa tête, hein.
Ah, c'est sûr, mais c'est parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on projette beaucoup sur l'autre ce qu'on pense soi-même de soi-même, du coup, on a l'impression, quand on n'est pas très content de ce qu'on dit, que l'autre lui-même s'ennuie ou n'est pas content. On interprète les signes. Enfin, en fait, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans la tête de l'autre, comme d'habitude. Donc attention. Et puis souvent, la question du regard, il peut y avoir une question de culture, il peut y avoir aussi une question de légitimité, hein, sur ces sujets. C'est-à-dire que on peut très bien travailler à un endroit pendant 10 ans, être hyper à l'aise avec ces sujets, regarder tout le monde dans les yeux, changer de boulot et se mettre à regarder le sol et le plafond. Fond, parce que d'un coup, on n'est plus à l'aise avec ce sujet. Donc il faut être bienveillant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'Annabelle a dit. C'est des techniques super. Et bienveillance, c'est-à-dire que ces choses-là, elles avancent petit à petit, tout doucement, avec la maîtrise de ces sujets et de son fond aussi.
Esther, vous avez 21 ans. Donc, quand vous animez une masterclass, comme vous dites, c'est pour des jeunes du même âge que vous ?
Non, pas exactement. Des gens plus âgés, des professionnels, un peu tout le monde.
Ah oui. Et comment, du coup, vous vous sentez considérée vous dites votre âge, par exemple ?
Non, au début, je ne dis pas mon âge, mais après, dans les conversations, ça passe bien.
Ouais. Donc, du coup, vous devez aussi faire un travail pour montrer une forme de réassurance aussi par rapport à ça.
Oui.
Charlie Tchatch, est-ce que les femmes vous parlent de leur physique au moment de la prise de parole en public?
Je pense que parfois elles sont gênées. Elles sont gênées, ça veut dire que généralement les femmes qui ont une corpulence beaucoup plus imposante, beaucoup plus forte, elles se disent non, mais les gens vont passer le temps à regarder, mettre des fous, ainsi de suite. Et généralement, elles sont obligées de porter des tenues pour éviter de cacher tout ça. Mmh. Donc, en fait, pourquoi? Parce qu'on a vendu le rêve comme quoi la plus belle femme, c'est celle qui a un corps svelte, ainsi de suite. Et donc, c'est elle qui, dès qu'elle est sur le pupitre, elle peut commencer à parler. Les gens vont avoir une attention beaucoup plus particulière. Mais en fait, c'est faux. Moi, je pense qu'il faut que les femmes prennent le courage, se disent, elles sont belles, au-delà du physique qu'elles ont. De toute façon, toutes les femmes sont belles. Mais le plus important, ce n'est pas le corps, le plus important, c'est le message que tu transmets, c'est comment tu veux impacter à travers les idées que tu donnes. Donc moi, je pense en fait que c'est ça, il faut arriver. Et pour revenir sur Esther, moi, ce que je veux dire, généralement, quand on est en public, comme disait Anaïs tout à l'heure, il faut maîtriser son sujet. Mais quand on est face à un public, il faut identifier. Généralement, il y a toujours une personne ou deux qui acquiescent sur ce qu'on dit. Quand on sort des arguments, il y a toujours une personne qui nous envoie un sourire, qui nous envoie, voilà, qui hoche la tête, ainsi de suite. Généralement, c'est sur cette personne qu'il faut faire
le focus. Il faut s'accrocher, d'accord.
Voilà, il faut s'accrocher. C'est cette personne qui va te donner l'énergie. Donc, tu peux regarder, balayer au-dessus des têtes, aller à gauche, aller à droite, mais tu reviens toujours sur cette personne, même si ce n'est pas ton parent, même si ce n'est pas un ami. Mais lui, au moins, il a saisi ton coup. Et donc, ça, c'est quelque chose de formidable. Donc, lui, le fusil. Mais il faut faire, il faut dénoncer tout ça, et le plus important, rester focus sur le message qu'on a à livrer.
Revenir à son port d'attache, un regard bienveillant parmi d'autres dans la salle.
Mais attention aux signes, encore une fois, hein, parce que quelqu'un peut très bien avoir une très belle écoute active et hocher la tête en souriant parce que c'est naturellement la manière dont elle écoute. C'est pas pour ça qu'elle est en train d'adhérer à ce qui est dit.
Ouais, et puis 10 minutes plus tard, elle peut dormir.
Elle peut dormir 10 minutes plus tard, exactement.
Là, c'est
quelqu'un qui a l'air un peu ronchon peut très bien être la personne au final qui vous soutiendra et vous portera. Donc c'est pour ça que je réinsiste toujours sur, même s'il y a de la réassurance, et je suis tout à fait d'accord avec vous, Charlie, il faut regarder la personne qui nous semble la plus bienveillante. Mais attention, une fois qu'on est rassuré, on regarde les autres, enfin, on étend le regard parce que tout le monde peut être avec nous. Enfin, on ne sait pas, quoi, on ne projette pas sur l'autre.
Esther, est-ce qu'on a répondu correctement aux questions que vous vous posez ?
Oui, et merci beaucoup. Merci encore à toute l'équipe de RFI.
Merci à vous. Très, très bonne journée à Brazzaville. Vous continuez de nous appeler les voisines au 33 1 84 22 71 71. On va peut-être revenir par les élections municipales en France. Allez, un petit détour. On écoute quelques extraits.
Je suis candidate à un nouveau mandat de maire de Paris parce que cette ville est pour moi une passion.
J'ai envie d'être candidate à la mairie de Paris. Je pense que aujourd'hui, les Parisiens ne sont pas satisfaits de leur vie. Je pense qu'il y a une alternative qui est possible.
J'ai décidé aujourd'hui de présenter ma candidature pour cette élection à la mairie de Paris. J'y suis née, j'y ai travaillé, j'ai élevé mes enfants, je la connais. Je connais aussi ses problèmes. Je pense qu'il faut les régler, il faut les régler avec calme, avec détermination.
Donc, pour la première fois, on trouve trois femmes dans la course à la mairie de Paris. Anne Hidalgo, la maire sortante, donc candidate à sa propre succession. Rachida Dati, les Républicains. Agnès Buzyn, campagne éclair en remplacement du démissionnaire Benjamin Griveaux. Alors que c'est pas du tout représentatif de la situation en France, Anaïs Coq, vous nous aviez dit en début d'émission que vous accompagnez plus exactement trois femmes dans la campagne des municipales, mais on a moins de 17% de femmes parmi les maires sortants. C'est la proportion la plus faible en politique si on compare au Parlement, au gouvernement, les femmes ministres. Et on n'a que 7 maires à la tête des 42 villes de plus de 100 000 habitants. Donc c'est quand même dur de se lancer là-dedans, non ?
Ah oui, c'est très très dur. C'est très dur parce qu'en plus de tout ce qu'on a à faire dans une campagne, et déjà je peux vous garantir que c'est pas simple de faire une campagne, alors aujourd'hui c'est encore plus compliqué qu'avant, mais alors en plus quand vous êtes une femme, vous êtes sans arrêt ramenée à ça. Je sais que ça paraît dingue, mais on est encore à ce moment-là. Réellement, moi, les trois candidates avec lesquelles je travaille, elles sont quasiment contactées, enfin tous les contacts médias qu'elles ont, ce ne sont quasiment que pour des interviews de qu'est-ce que ça fait d'être une femme et de faire une campagne, comment vous vous en sortez avec votre vie privée. C'est-à-dire que et au bout d'un moment, alors au départ évidemment on dit oui à ces interviews-là parce que on a l'envie de porter une parole, de libérer les autres femmes, de leur donner les outils. Puis au bout d'un moment, vous vous dites bon, est-ce que quand même, enfin l'air de rien, je suis pas qu'une femme, je suis capable de porter
surtout,
des sujets sérieux.
On ne pose plus jamais ces questions-là à une femme ministre.
Ah bah non.
Donc
parce qu'il
y a un vrai décalage.
Il y a un vrai décalage, mais on adore, c'est-à-dire que c'est marrant à chaque fois la passion qu'il y a des gens pour savoir comment elles gèrent leur vie privée en même temps que cette vie politique. Et il y a toujours en plus une suspicion quand même parce qu'en l'occurrence les trois elles sont mères d'enfants, j'entends, et une suspicion du coup qu'elles sont mauvaises mères. C'est quelque chose qui apparaît sous-jacent, ce sera jamais dit comme ça, mais elles se retrouvent ou elles-mêmes se justifient, peut-être que c'est pas ce qu'on leur reproche. Mais elle se justifie d'arriver à faire cette carrière et en même temps de s'occuper de leurs enfants. Donc c'est quand même...
Une auditrice nous appelle de Cotonou au Bénin au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Marie-Chantal.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes étudiante en journalisme, vous avez 23 ans, vous avez des questions à poser.
Oui, j'ai une question. J'aimerais savoir comment réussir à convaincre le public. Lorsque, au sein de votre public, il y a une personne qui cherche à vous ridiculiser, en posant par exemple des questions pour vous intimider, pour vous empêcher de vous exprimer.
Attendez, j'ai pas compris la fin. C'est-à-dire comment on s'impose quand on a quelqu'un dans votre public qui cherche à vous ridiculiser. Ça a été votre cas. Comment expliquez-nous?
Oui, c'est bien cela.
Oui, mais comment c'est on a cherché à vous comment on a cherché à vous dire à vous ridiculiser?
Par exemple, en posant des questions pour
vous déstabiliser.
Pour nous déstabiliser. Mmh.
Quel genre de questions?
Bon. Par exemple, si je prends un sujet qui porte sur la femme, et c'est ce sujet-là que je suis en train de développer, celui qui veut m'intimider ou celui qui veut me déstabiliser pose une question qui pourrait m'amener à ne pas peut-être trouver de réponse.
Ouais.
Et son objectif, c'est simplement pour... Mais pas que j'atteigne
les... C'est ça, les... vous mettre en difficulté finalement, hein, où vous n'êtes pas capable de répondre. La malveillance, là, c'est même pas, on parlait tout à l'heure de comment chercher la bienveillance dans le public, mais là c'est carrément la malveillance. Est-ce que d'ailleurs c'est une inquiétude qui touche davantage les femmes ou pas, Annabelle Roberts?
Je pense que c'est une inquiétude qui touche tout le monde. Je vais dire que parler en public, c'est de s'exposer, d'accord? Donc, moi j'ai... envie de dire que face à cette malveillance, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. D'accord? Donc ça, c'est quand même la base de toute média training. Je pense que vous allez étudier ça, Marie-Chantal, dans vos études de journalisme. C'est que nous sommes pas obligés d'accepter le cadre que l'autre essaye d'imposer sur nous. Donc si quelqu'un vous dit « Non mais attendez, mademoiselle, c'est quoi ces data? C'est où vos sources ?» etc. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le rôle qu'il essaye de vous imposer, c'est-à-dire moi dominant, vous petit. D'accord? À ce moment-là, c'est même pas le data qui lui intéresse, c'est d'être le dominant, c'est de montrer que moi, je sais mieux que vous. Et vous n'êtes pas obligé d'accepter ce cadre. Est-ce que ça répond à votre question?
Oui, c'est bon.
Charlie Tchatch, est-ce que vous avez un élément à donner à Marie-Chantal?
Ah oui, moi, j'ai un élément. Je me souviens que tout à l'heure, Anaïs, quand elle parlait, elle disait quand on prend la parole, on n'est pas obligé forcément d'être un expert, donc les femmes d'être expertes dans le domaine. Et généralement, je peux prendre un exemple en disant une femme qui va parler du mariage, mais elle-même, elle n'est pas mariée. Et peut-être dans le public, quelqu'un peut se lever et poser la question de savoir, mais comment pouvez-vous parler du mariage et pourtant vous-même, vous ne vivez même pas une vie de couple, en fait. Mmh. Et donc, cette question peut parfois amener la dame à se dire, voilà, elle peut être perdue, mais en réalité, non, pas besoin d'être perdu. Ça veut dire que quand on reste, on joue un rôle, si on est dans le rôle de l'impétrant, ainsi de suite, on peut trouver des arguments pour se défendre. Voilà. Donc tout dépend de la réponse à donner. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur du public, c'est justement aussi tout ça. Il faut prévoir les aléas, d'où l'intérêt d'avoir des coachs. Et ça, c'est très bien ce que fait Anaïs, parce qu'en réalité, le coach va aider, évidemment, l'impétrant à prévoir tous les aléas de la prise de parole en public, surtout s'il y a des questions qui seront posées par la suite. Donc moi, je pense qu'il faut qu'elle fasse, comme disait Annabelle, c'est justement la solution, éviter de perdre pied devant des questions qui te sont posées où la personne, évidemment, veut forcément que tu planches. Quoi. Voilà.
Merci pour la question, Marie-Chantal. Très bonne journée à Cotonou. Et puis, merci à tous les trois d'avoir joué le jeu, d'avoir prodigué des conseils. Merci Charlie Tchatch, qui était à Libreville. Annabelle Roberts, qui a publié La théorie de la veste, professionnelle du coaching de la prise de parole en public. Et également Anaïs Coq, là, qui planche pour les municipales et qui accompagne des maires des femmes qui se présentent dans la campagne. Merci. Dans quelques instants, l'Afrique qui gagne. On donne la parole à Charline Zogang, 29 ans. C'est un créateur de mode camerounais. Il a grandi à Bamenjou, dans l'ouest du pays. Aujourd'hui, il vit à Bruxelles. Il a été sélectionné pour présenter sa toute première collection à la Fashion Week de New York en 2019. Lui qui, pourtant, ne se prédestinait pas du tout à ce métier. Il s'est raconté au micro de Charlie Dupiau.
Ma maman m'a eu très jeune. Elle avait 18 ans. J'ai jamais connu mon père d'ailleurs. Quand elle m'a eu, elle m'a laissé à ma grand-mère parce que elle voulait en fait pouvoir s'en sortir et venir me rechercher après. Quand elle est venue me récupérer, j'avais 8 ans. Un an après, elle est venue en Belgique et moi je la rejoins à l'âge de 9 ans. Et donc de là, je fais mes petites études secondaires. Quand je finis la secondaire, elle me dit « Oui, tu vas être architecte. »
Pourquoi architecte?
Parce que j'ai dessiné en Afrique. Beaucoup de personnes n'ont pas de télé. Et le voisin, il a mis un câble satellite. De là, il avait toutes les chaînes. Pour regarder la télé chez le voisin, il fallait faire le ménage. Si tu arrives et qu'un enfant a déjà fait le ménage, c'est mort. Je sortais de l'école, je fonçais avec ma tenue, balayais la cour, lavais même les habits, souvent la lessive. Mais même après avoir fait le ménage, je regardais la télé de dehors, à travers la fenêtre. Et donc, j'ai découvert le Club Dorothée, donc les mangas et tout ça, les Dragon Ball Z, à travers la fenêtre d'un voisin. Je pense même avec ça, j'ai appris à dessiner sans regarder ma feuille. Pour colorier, j'utilisais de la terre, vraiment autodidacte. Au fur et à mesure, j'ai évolué. Et donc, quand ma maman voyait, elle disait, c'est toi qui dessines ça? Je dis, oui, c'est moi qui ai dessiné. Donc, petit à petit, elle s'est dit, oui, dessin, architecture. Et il se trouve, j'étais aussi bon en maths. Je commençais architecte.
C'était une école d'architecture à Bruxelles, ouais. En 3 ans.
Première année, je réussis. Deuxième année, je réussis. Et la troisième année, elle tombe malade. Une grosse maladie.
Votre mère.
Ouais, ouais. Et donc, elle était en permanence à l'hôpital. Et donc, j'avais mes 2 petits frères. Étant le plus grand, j'ai pris la relève. Donc, j'ai dû arrêter mes études. Au bout de 2 ans, après la chimio, elle m'a dit, écoute, reprends tes études. On va essayer de s'en sortir comme ça et tout. Je reprends mes études. Je me dis, mais c'est pas possible en fait. Ce n'est pas du tout ce que tu veux faire. Donc, je passe devant une école, je vois art appliqué. Je me dis, bah tiens, j'arrive, il y a photographie, stylisme. Mais moi, le stylisme, je ne savais rien. Ils me disent, mais en stylisme, tu as du dessin. Je dis, ok, super, je vais essayer. Donc là, je ramène du travail à la maison, je ramène tous mes croquis à la maison, je commence à dessiner et tout. Le dernier défilé, donc on prépare le défilé de l'école et tout. J'ai une collection de 6 modèles à confectionner. Et donc, quand ma maman voyait, elle disait, c'est ce que tu as fait? J'ai dit, oui, c'est moi. Voilà, c'est ça que j'ai décidé de faire. Elle dit, ben, tu es très doué. J'avais 28 ans à ce moment-là.
Ces 6 pièces que vous avez créées à ce moment-là pour l'école, qu'est-ce que c'était?
Les créations, en fait, c'est inspiré beaucoup de mangas. Et ça, c'est une des pièces qui a été à New York.
Ça, c'est un col roulé, blanc.
Ouais, et.
Manche large.
Ouais, ouais, c'est inspiré du kimono en fait. Je m'inspire beaucoup de l'Afrique également. Donc, c'est le vêtement oversize. Oversize, c'est des vêtements larges. Je ramène beaucoup d'éléments aussi de l'Afrique, le bois d'ébène.
Et comment vous utilisez ce bois d'ébène?
C'est des accessoires. Donc, ce sont des zips. C'est
en bois.
En bois. Ce sont des boutons.
Alors là, donc vous avez des dessins.
Ouais, ça en fait c'est la collection qui va sortir. Ça c'est une des pièces qui a défilé à la Fashion Week de New York, qui a eu énormément de succès. Donc je ne saurais pas vous dire si c'est une jupe ou si c'est une robe.
C'est comme en fait une cape de dos.
Ouais, c'est un mélange de sweatshirt bien banal avec une capuche de dos et de devant ça devient une jupe ou une robe.
Et cette tenue est blanche.
Ouais, ça tire le regard. C'est justement la collection de fin d'année d'études qui a fait qu'on me repère. J'ai participé à un concours Ethnotendance. J'ai gagné ce concours-là. Les vidéos ont tourné sur Instagram, sur les réseaux. Et il y a une agence commerciale de Oxford Fashion justement qui a vu la vidéo.
En Angleterre?
Ils m'ont appelé, ils m'ont envoyé un message. Est-ce que ça vous dirait de défiler à la Fashion Week? Le petit couturier va à la Fashion Week de New York, s'il vous plaît. Jackpot, Charlie.
Qu'est-ce que c'est que pour vous l'Afrique qui gagne?
Éviter le wax. Quand tu es styliste et que tu es noir, on va demander, ah oui, c'est super. Même mes compatriotes, alors tu vas me faire une tenue africaine. Ben, une tenue africaine pour toi, c'est quoi en fait? Ben, une tenue africaine, ça se limite à prendre du tissu wax et de découper dedans et d'en faire une pièce. Mais ben, non. Le wax, en fait, je le considère comme un tissu bas de gamme. Justement, de pouvoir dire demain, les gars, je suis styliste afro, mais je ne fais pas du wax.
C'était Charline Zogang, créateur de mode camerounais pour la rubrique L'Afrique qui gagne. Bien sûr, vous retrouvez toutes nos émissions, vous savez maintenant, sur les plateformes de téléchargement en podcast. On aime vos commentaires, surtout si vous nous mettez des étoiles pour nous encourager. Demain, on se retrouve même heure, même endroit pour 7 milliards de voisins. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Et on se retrouve donc à 10h10, temps universel.